France Info.
Bienvenue dans Les Informés, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Les Informés aujourd'hui ont bien travaillé, ils ont écouté Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, s'exprimait pour la première fois depuis le mauvais résultat du mouvement aux européennes. Il était devant les militants aujourd'hui, allait-il être critique? Qui allait-il critiquer? Il ne quitte pas en tout cas la France Insoumise, il en reste le leader. Patrick Balkany, qui sort de son silence et qui sort tout juste de son procès, il a pris la parole, il était à la télévision également ce soir. Qu'en pensent les informés? À la une également, la PMA, le projet de loi bioéthique présenté par la ministre de la Santé. C'était dans le journal du dimanche ce matin. Qu'y a-t-il de nouveau et qui va se mobiliser contre? On en parle avec les informés de ce soir. Bonsoir Céline Boisson.
Bonsoir.
De l'agence de com Nude. Yasmina Jaffar, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et fondatrice du site La Ruche Média. Bonsoir Serge Simino.
Bonsoir.
Journaliste au service politique de France 3 à France Télévisions. Bonsoir Jean-Christophe Ploquin.
Bonsoir.
Journaliste à La Croix, notre partenaire du dimanche. Bienvenue sur France Info, à la radio, à la télévision, sur le canal 27. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Un dimanche politique avec donc la très attendue prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France Insoumise, devant les militants aujourd'hui à Paris. Première prise de parole devant les militants après donc le mauvais résultat aux européennes. On écoute l'analyse qu'il a faite tout à l'heure devant les militants.
Nous avons le plus grand mal à construire une transversale, une cause commune entre des catégories sociales aussi éclatées et qui se font une représentation de leur futur aussi diverse. Voilà où est notre difficulté. Dans la campagne des élections présidentielles, nous avons réussi à tracer ce projet qui fédérait. Nous n'y sommes pas parvenus dans l'élection européenne.
C'est pas simple. Vous avez tout compris, Yasmina Jaffar ?
Non, tout ce que je comprends là, c'est qu'en effet, il y a une volonté d'autocritique, mais ce qui s'est passé peut-être entre l'élection présidentielle et hier, quand il a endossé le gilet jaune, c'est peut-être un moment difficile pour Jean-Luc Mélenchon. Il a dit hier, pourquoi est-ce que je serais déprimé? Il n'y a aucune raison que je me retire de nulle part. Non, on a affaire à quelqu'un qui, de toute évidence, n'a pas digéré sa défaite. Et voilà ce qui s'est passé en 2 ans. C'est une attitude offensive qu'il a eue pendant 2 ans. Aujourd'hui, le ton de cette conversation, d'une heure à peu près, c'était offensif, mais de toute évidence, comme Emmanuel Macron, on change de ton, mais pas forcément de méthode. Et ce cap-là, il va garder cette idée de l'opposition qui s'oppose avec beaucoup de hargne, mais où sont les idées et la volonté d'être réellement transversale, je ne sais pas.
Serge Simino, vous y étiez cet après-midi. C'est une autocritique que vous entendez là?
Oui, cette partie-là, c'est une autocritique sur le diagnostic de la défaite, pour ne pas dire de la déroute.
On n'a pas réussi à faire ce qu'on avait fait
européennes.
Pour la présidentielle.
Et à la suite de l'extrait, il explique encore un peu plus en disant on n'a pas réussi à aller expliquer à nos électeurs que le Parlement européen ne servait à rien, qu'il fallait élire des députés qui ne servent à rien pour une Europe qu'on conteste. Et effectivement, qu'ont fait les électeurs de 2017, ils ne sont pas allés voter. La France Insoumise est le parti qui a subi le plus gros revers au regard de l'abstention.
Mais pratiquement, pas facile d'appeler à voter pour un Parlement que l'on critique. Marine Le Pen, elle a réussi, elle.
Oui, mais l'autre élément qui a fait que le Rassemblement National a mieux réussi, c'est que le référendum anti-Macron, si on regarde les résultats, 80% des électeurs ont voté contre Emmanuel Macron. Mais pour autant, si on regarde les gilets jaunes auxquels vous faisiez référence, pour qui ont-ils voté? Ceux qui ont voté à 38% pour le Rassemblement National. Il est là le double échec. Un, ne pas être audible pour un mouvement, il faut dire mouvement, sinon ils sont pas contents. Un mouvement jeune, certes, mais qui a complètement raté la possibilité de capitaliser. Et sur les gilets jaunes, et sur sa critique de l'Europe, et j'ajoute à ça sa critique d'Emmanuel Macron. Et donc, Jean-Luc Mélenchon a dit 2 choses aujourd'hui. On a raté cette campagne, pour des raisons objectives. Maintenant, entendons les critiques. Et dans les critiques internes, il y a aussi d'avoir raté, non pas forcément le train des gilets jaunes, mais de ce qu'il portait. C'est-à-dire, ce qu'il essaye de dire dans l'extrait que vous avez passé, cette représentation qui est compliquée, c'est-à-dire que ça ne s'est pas cristallisé sur la France insoumise.
Mais lui, qui est quand même le représentant de la colère, il n'a pas entendu, il n'a pas vu venir les gilets jaunes.
Mais comme quoi, les professionnels de la profession peuvent aussi rater une élection.
Mais ça veut dire quoi? Que c'est qu'il est dans la posture de la colère?
Ben c'est que je crois que, vous savez, son bruit et sa fureur, je crois que les gens ont vu la fureur mais pas entendu le bruit, et du coup, ça a donné cet échec-là. Et en interne, les petits changements qui ont été opérés aujourd'hui, avec un regard sur la vie interne du mouvement, c'est déjà une concession, alors que c'était pas forcément un mouvement autocratique, c'est pas forcément ça, mais il y a une envie au sein du mouvement de dire, attention, on ne peut pas rester sur la réussite de la quatrième place de 2017, parce que ça va venir vite, et les municipales n'est pas une élection très favorable à la France insoumise.
Céline Boisson, Yasmina Jaffar disait qu'elle avait entendu quelqu'un de très offensif aujourd'hui. Vous en avez pensé quoi ?
Oui, je suis assez d'accord. Effectivement, il est dans l'attaque et finalement, il est égal à lui-même. Enfin, dans le peu que j'ai pu voir, moi, j'ai trouvé le même Jean-Luc Mélenchon d'avant, avec en tous les cas, aucune remise en question, je trouve. Je crois qu'il a juste dit « Nous n'avons pas réussi à fédérer, point. » Et après, il est passé, il se victimise, il revient...
Serge Cheminot rectifié, flagellez-vous si vous le voulez, mais moi c'est pas mon truc, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, parce que il faisait allusion aussi à ce qui était écrit dans la presse. Bon, c'est sa grande amie la presse, mais c'est vrai qu'il a très vite dégagé cette possibilité qu'on attende cette phrase. Je m'en vais. Il est hors de question pour lui de partir. D'ailleurs, c'est lui qui avait répondu à Édouard Philippe au discours de politique générale, donc on avait déjà la réponse.
Jean-Christophe Ploquin, vous l'avez trouvé comment ?
La meilleure défense, c'est l'attaque. Je pense que c'est un homme qui est sur la défensive, et je pense qu'il l'est durablement, mais qu'il camoufle cet échec, effectivement, quand même crucial des européennes, par une posture très battante.
Sur le ton, sur la forme ?
Sur le ton, moi j'ai retrouvé le Jean-Luc Mélenchon qu'on connaît bien. Sur la forme aussi, ce discours quand même assez intellectuel, hein, et s'adressant à ses militants. Mais voilà, il faut vraiment se dire que après l'échec des européennes, il est devant des élections municipales qui ne sont pas a priori favorables à LFI. Ils sont pas suffisamment implantés sur le terrain, et donc c'est quand même, il est dans un creux de vague.
Alors il a dit, Jean-Luc Mélenchon, que c'est la fin d'un cycle ouvert par l'élection présidentielle. On va voir ce que cela veut dire dans un instant. Il est 20h10. Le rappel de l'info, Camille Revel.
Et un avis de canicule sur la France. Paris et sa petite couronne sont déjà en vigilance orange. Tout comme la Seine-et-Marne, des mesures sont prises pour protéger les plus fragiles, comme les sans-abri. Emmaüs le promet sur France Info. Les maraudes sont étendues. Les accueils de jour ouvriront plus tôt et fermeront plus tard. Jean-Luc Mélenchon, de retour à la tribune, un mois après le mauvais score des Insoumis aux européennes. Il le reconnaît, c'est cruel, c'est douloureux quand on ne voit pas revenir à la rescousse pour lesquelles on se bat. Mais Jean-Luc Mélenchon se dit aussi consterné par le nombrilisme de certaines critiques. Agnès Buzyn, elle détaille la future loi bioéthique dans le JDD. Elle assure que la PMA, la procréation médicalement assistée, sera remboursée pour tous jusqu'à l'âge de 43 ans. La ministre de la Santé veut aussi que les enfants conçus grâce à un donneur puissent apprendre son identité lorsqu'ils seront majeurs. Un revers pour le président turc, l'opposition va prendre les rênes de la mairie d'Istanbul. Le candidat de Recep Tayyip Erdogan concède sa défaite face à son rival Ekrem İmamoğlu. Un record de fréquentation pour le festival Solidays, 228 000 visiteurs pour ce rendez-vous solidaire à l'hippodrome de Longchamp à l'ouest de Paris cette année. Et parmi ces visiteurs, le Premier ministre Édouard Philippe. L'Angleterre est en quart de finale du mondial de foot féminin après la victoire 3-0 face au Cameroun. Ce soir, les Françaises cherchent aussi à décrocher leur place en quart de finale. Elles affrontent le Brésil en 8e.
France Info. France Info. Les informés. Noé Da Silva.
La suite des informés, merci d'être avec nous jusqu'à 21h avec ce soir Céline Boisson, Yasmina Jaffar, Serge Cheminot, Jean-Christophe Ploquin. Nous évoquons donc cette prise de parole de Jean-Luc Mélenchon devant les militants de la France insoumise. Il a bien expliqué, Jean-Luc Mélenchon, qu'une page est en train de se tourner aujourd'hui. C'est la fin d'un cycle ouvert par l'élection présidentielle où est née la France insoumise. Mais la France insoumise restera un mouvement. Il ne peut pas être un parti politique. Serge Cheminot, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, vous avez dit c'est un mouvement. N'allons pas fâcher la France insoumise, mais concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que on sait d'où vient Jean-Luc Mélenchon. Il a connu les courants, il a connu l'émotion au Parti socialiste. Et certains opposants internes à la France insoumise avaient dit il y a un peu de temps qu'ils aimeraient, pourquoi pas, construire quelque chose qui ressemblerait à un parti. Et ça, il est hors de question pour les leaders de la France insoumise, que ce soit les membres du groupe parlementaire ou Jean-Luc Mélenchon lui-même, d'aller dans ce sens-là. Ce serait pour lui un retour à la case départ. Donc ce qu'il veut, c'est ce fameux mouvement gazeux, bon, qui connaît un peu des trous d'air aujourd'hui. Et il veut essayer pour les municipales de lancer ce qu'il appelle j'appelle la fédération populaire, c'est-à-dire ne pas avoir des listes de candidats estampillés France Insoumise qui partiraient de Paris de manière centralisée, mais au contraire d'essayer de s'agréger à ce qu'il appelle les collectifs et les mouvements citoyens.
Donc ça, ça veut dire quoi, qu'il n'arrive pas à faire l'union?
Alors certains disent aussi que c'est parce qu'il n'y a pas assez de candidats, mais en tout cas il veut tenter la nouvelle étape dont vous parliez, c'est d'essayer de mettre en place cette fédération populaire, mais ne parlons pas de gauche plurielle, c'est une fédération populaire pour Jean-Luc Mélenchon.
Et on voit bien justement hier cette volonté de communication, de se retrouver plutôt à Belfort, avec une raison sociale et d'y être. Si Jean-Luc Mélenchon n'était pas hier dans cette région sinistrée avec une désindustrialisation massive, ça serait étonnant. Donc il a cette volonté de vouloir montrer peut-être une façon de s'adoucir et de faire un pas de côté sur le plus proche des Français, mais surtout le plus proche des Gilets jaunes, parce que depuis le début, il n'a pas réussi à se faire entendre d'eux, et quand il allait à leur manifestation, il se faisait sortir. Donc il y a une volonté comme ça qui rend service à la mairie de Belfort, parce que on a entendu parler, il a braqué toutes les caméras sur lui, donc on a entendu parler de cet événement, et en même temps, lui, ça lui sert pour revenir dans cette idée de fédération populaire, en espérant que ça prenne, parce que c'est une des revendications des Gilets jaunes qui est de participer à la société politique et aux avis.
Jean-Christophe Ploquin.
Oui, ce qui est compliqué pour les municipales, puisque c'est le prochain horizon politique, c'est que Jean-Luc Mélenchon se retrouve évidemment non seulement concurrencé, mais devancé par les Verts, avec le discours extrêmement offensif de Yannick Jadot, qui veut conquérir des grandes mairies, et qui a réussi à mobiliser sans doute aussi une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon au moment des européennes. Et puis finalement aussi le Parti Socialiste, qui lui a fait à peu près le même score aux européennes, mais qui reste encore très implanté dans un certain nombre de municipalités. Et donc, comment est-ce que la France Insoumise ou sa fédération vont trouver un espace politique avec ces deux concurrences? Ça va être compliqué pour lui.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un problème pour le développement de la France Insoumise, Céline Boisseau?
Je pense que on a besoin de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise, hein, ça me semble. On a besoin de ce personnage qui est quand même emblématique pour ce mouvement. Après, tout ce qui se passe dans la France insoumise, tout ce qui est revendiqué dans la France insoumise, que ce ne serait en termes de mouvement ou de parti, tout ça est une question de rhétorique finalement. Et il est très bon là-dedans. Et il prépare surtout les municipales avec un enjeu d'horizontalité, où il a bien compris, comme d'autres partis d'ailleurs, qu'on n'est plus dans un phénomène de verticalité où on décide pour les autres, mais qu'on fait ensemble. Et on l'a vécu très récemment par ailleurs. Donc il surfe un peu aussi sur une tendance, certainement pour gagner des voix, certainement pour rassembler ou re-rassembler, et aussi pour préparer les municipales et prouver qu'il peut être aussi dans la proximité et dans l'échange.
Serge Chiminot, est-ce que quand Jean-Luc Mélenchon dit aujourd'hui les difficultés ne viennent pas du fait qu'il n'est pas assez poli, c'est pour revenir sur l'épisode de la perquisition au sein du siège de la France insoumise où il était en colère et certains disent qu'il a fait fuir de nombreux sympathisants?
Oui, cet épisode l'a montré sous un jour peu favorable. Il était sacré, mais je crois qu'il faisait aussi allusion à tout un tas de critiques internes qui laissaient entendre que la France insoumise était dirigée d'une main de fer par Jean-Luc Mélenchon, qu'il supervisait l'ensemble et qu'il était autocratique. Donc je crois que il y avait aussi l'épisode de la perquisition, puisqu'il dit que ils ont pris des coups comme personne, mais aussi les critiques internes, que ce soit celle de Clémentine Autain, en fait, d'autres militants, même certains candidats aux européennes qui avaient réalisé une tribune avec Charles Girard pendant la campagne. Donc je crois que c'est à tout ça quoi, il faisait allusion. Et puis il veut effectivement dire au monde, je ne suis pas celui qu'on présente. Pour autant, c'est vrai que ces coups de colère, c'est pas les médias qui les inventent.
Jean-Luc Mélenchon a expliqué également que les difficultés du mouvement viennent des persécutions judiciaires et policières. Yasmina Jaffar, ça veut dire qu'il n'a pas évolué depuis ce coup de colère qu'évoquait Serge il y a quelques instants.
Ce que disait exactement Céline Poisson, c'est ça exactement, je ne veux pas me tromper. En effet, vous avez raison, il se victimise et il aime ce jeu-là. Donc c'est la méthode de communication change ces quelques jours, mais fondamentalement son cap à lui et le cap de la France Insoumise et l'ADN de ce qu'il a créé, et s'il s'en va, ce parti, ce mouvement, n'existera plus. Ça, c'est une évidence parce qu'il le porte totalement. Mais un homme ne peut pas changer du tout au tout. Il y a des possibilités de résilience, mais de toute évidence, il nous a prouvé que peut-être il n'était pas apte à ça. Donc, c'est une digestion qui se fait pas très bien et la colère aidant. Et aussi, c'est un camouflet. Et s'il y a un autre camouflet pour les municipales, nous allons revoir quelqu'un d'assez nerveux et ça ne préjuge rien de très intéressant pour les présidentielles, d'autant qu'il a 68-9 ans et il doit se dire aussi la suite de l'histoire va se faire sans moi.
Ouais, et alors, je voudrais rebondir là-dessus, parce que la question de l'âge, je pense qu'elle doit être présente à LFI, c'est évident. Comme vous venez de le dire, Jean-Luc Mélenchon a 67 ans et il en aura 70 au moment de la présidentielle. Et je pense qu'on a vu la volonté de tous les partis, y compris de LFI d'ailleurs, avec Manon Aubry, de rajeunir, de présenter des cadres beaucoup plus jeunes. Et si, au vu des candidats à peu près repérés qui se présenteront à la présidentielle dans 3 ans, bah, ce sera vraiment le doyen des doyens.
C'est pour ça qu'il fait monter qui se présente. Adrien Quatennens, le député du Nord.
Oui, mais je pense que ça va au-delà. Enfin, c'est vraiment un enjeu structurel aujourd'hui pour LFI. Et j'imagine que Jean-Luc Mélenchon se pose la question, est-ce que c'est moi qui y vais dans 3 ans, ou bien est-ce que je suis
plus
là pour...
Est-ce que vous pensez vraiment qu'il se pose la question aujourd'hui?
En tout cas, je serais lui, je me la poserais. C'est-à-dire, est-ce que je suis plus là pour faire vivre un mouvement dans la durée et bâtir quelque chose avec d'autres, des plus jeunes, et donc ce ne sera pas moi qui serai là dans 3 ans.
C'est une boisson?
Je ne sais pas, je pense que quand on est à la tête d'un mouvement comme celui-ci, je pense qu'on pense surtout à soi et qu'il veut surtout réussir lui. Et si demain il n'est plus à la tête de ce mouvement, eh bien ce ne sera plus la France Insoumise, ce sera un autre parti ou un autre mouvement.
La montée d'Adrien Quatennens hier comme coordinateur du mouvement, Serge Chiminot.
Elle était presque écrite.
C'est la relève, c'est le dauphin.
Ce sont j'aime pas l'expression, mais c'est des bébés Mélenchon, donc qui ont effectivement été élus aux dernières législatives. Ils sont jeunes, Adrien Quatennens s'exprime parfaitement.
Ça ne peut pas satisfaire en tout cas Clémentine Autain, qui demande du pluralisme dans le mouvement.
Est-elle encore à la France Insoumise? Moi, c'est la question que je pose. Elle est au groupe parlementaire, mais lorsqu'on fait des critiques, comme elle l'a fait, elle a tout à fait le droit, c'est légitime. Mais pendant que ses militants se réunissent de les faire sur une télé ou une radio, c'est que vous n'êtes plus vraiment dans le mouvement, comme disait l'autre, il s'est exclu elle-même du mouvement. Donc je pense qu'il y a de la friture sur la ligne depuis longtemps, mais Clémentine Autain n'est pas la relève de la France Insoumise pour Jean-Luc Mélenchon. Elle le sera peut-être d'une nouvelle forme de gauche, je ne sais laquelle, mais Adrien Quatennens, c'est logique, mais il n'est pas là comme candidat aux élections présidentielles 2022. Il est coordinateur de la France Insoumise. Je pense qu'il est jeune, mais il doit être patient.
Il est 20h20, c'est l'heure du rappel de l'info avec Camille Revel.
Les parcs et les jardins ouverts la nuit, des salles rafraîchies dans les établissements publics, 5000 gourdes distribuées aux SDF, des ventilateurs dans les crèches. Paris s'organise face à la canicule, la capitale et sa petite couronne sont déjà en vigilance orange, tout comme la Seine-et-Marne, une vague de chaleur dans toute la France. La semaine prochaine, le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés. Plus d'une heure de discours et un constat, nous n'avons pas réussi à fédérer. Jean-Luc Mélenchon fait le bilan après le mauvais score des insoumis aux européennes. Il appelle la France insoumise à se remettre au combat. Les pompiers en grève cet été. 7 syndicats déposent un préavis à compter de mercredi jusqu'au 31 août. Mouvement symbolique, ils ont une obligation de service minimum, mais ils réclament plus de moyens pour assurer leur mission en hausse. Une manifestation géante dans les rues de Prague. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de Tchèques, 250 000 selon les organisateurs, pour réclamer le départ du Premier ministre Andrej Babis et soupçonné de fraude aux subventions européennes. Le secrétaire d'État américain lui part en Arabie Saoudite et aux Émirats. Mike Pompeo veut évoquer la crise avec l'Iran. Washington le promet. Nous n'avons aucun intérêt à une confrontation militaire avec Téhéran. Mais Mike Pompeo juge enfantine une carte publiée par l'Iran censée montrer un drone américain dans l'espace aérien iranien. Pas d'excitation particulière. Le collectif est serein. La sélectionneuse des Bleus, Corinne Diacre, dédramatise. Ce soir, l'équipe de France féminine de foot affronte le Brésil en 8e de finale du Mondial. Coup d'envoi à 21h.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous sur France Info à la radio et à la télé sur le canal 27. Les informés ce soir, Céline Boisson, Yasmina Jaffar, Serge Simino, Jean-Christophe Ploquin. Les informés donc jusqu'à 21h et nous ouvrons la page Patrick Balkany. À peine sorti de son procès, il risque 7 ans de prison. C'est ce qui a été requis, procès pour fraude fiscale. Eh bien, Patrick Balkany, le maire Les Républicains de Levallois-Perret en région parisienne, était tout à l'heure chez nos confrères de BFM TV. Écoutez dans quel état d'esprit il se trouve.
Personne n'a jamais été condamné en première instance à aller en prison pour fraude fiscale. Personne. En plus, je vais avoir 71 ans. Je crois qu'il y a d'autres endroits pour moi que la prison.
Céline Boisson, je rappelle que vous êtes de l'agence de com Nude. Est-ce que ça, c'est de la bonne communication de crise ?
Il est vraiment, c'est un homme hors de l'ordinaire, où effectivement, je dois avouer que quand je l'ai regardé, j'ai un instant eu envie presque de le croire, ou en tous les cas, l'écouter tellement il est incroyable. Enfin, il a une allocution, un bagout, il rentre dans, il essaie de toucher les gens en partant dans l'histoire de son père.
Il
a beaucoup parlé de son père, de son beau-père, c'est absolument incroyable. Même ce qu'il vient de dire en disant en 71, 11 ans, ce n'est pas en prison que je dois aller, c'est bien ailleurs. Enfin, c'est, il parle avec une liberté incroyable de l'argent.
Ce qui semble fonctionner dans sa ville de Levallois-Perret. Il y avait hier la fête de l'été, il s'y est baladé.
Mais c'est aussi incroyable.
C'est une star.
Une star. Il est extrêmement à l'aise, il n'a aucune gêne à cela, alors qu'il ne nie pas les faits, hein. Il le justifie d'une certaine façon, il dit que c'est une autre époque. Enfin, c'est assez incroyable. Et effectivement, il a des pages Twitter de soutien des gens de Levallois, mais certainement d'autres qui seraient prêts.
Donc pour vous, ce type d'intervention, ça fonctionne ?
Ah non, je pense pas que ça fonctionne. Je pense que c'est très intéressant de regarder ce type d'allocution et d'intervention. Mais non, ça fonctionne pas. Je pense d'ailleurs que ça n'a pas fonctionné. Peut-être juste pour les habitants de Levallois, peut-être. Mais ça ne fonctionnera pas, en tous les cas, au niveau de la justice.
Yasmina Jaffar,
c'est un exercice qui rappelle un petit peu celui de Monsieur Mélenchon, qui est dans l'exercice de la victimisation. À la fin de l'interview, il a carrément un plaidoyer en réhabilitation. Mais il s'adressait à ses administrés, parce qu'il pense aussi au municipal, même si il n'en fera peut-être pas partie. Mais en tout cas, il était dans cet état d'esprit qui est « je n'ai rien fait », ou alors si j'ai fait, ça n'est pas si grave que ça. Il a même comparé, s'il avait tué quelqu'un, ça serait proscrit, mais des problèmes financiers, ça n'est pas proscrit, donc c'est un scandale. Il a aussi des phrases assez incroyables, comme « on ne va pas non plus s'excuser d'être né dans une famille riche, ça n'est pas ce qu'on demande, ce qu'on demande c'est de respecter la loi ». Elle a très bien réagi, la journaliste, en répondant de cette manière-là. Et il a de la propos, ça c'est une évidence, c'est un storyteller incroyable, c'est une leçon de communication entre guillemets.
C'est quoi storyteller ?
C'est quand on parlait de son père, raccrocher sa propre histoire à des anecdotes personnelles pour toucher, partir du personnel pour aller vers l'universel. Ah. Et c'est se raconter une histoire, la raconter aux autres, en oubliant des détails plus concrets qui sont « vous avez fauté ».
Serge Simino, vous avez été touché par cette histoire racontée par Patrick Balkany ce soir ?
Je trouve qu'il a résumé lui-même son intervention au début en parlant du réquisitoire, en disant tout ce qui est excessif est insignifiant. Je croyais qu'il parlait de l'interview en général alors qu'elle avait à peine commencé. Non, c'est bien évidemment une tentative de réhabilitation médiatique, mais les réponses, on les aura le 13 septembre et le 18 octobre, quand le jugement tombera pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est pas un numéro de trapèze, c'est quand même quelqu'un qui vient de passer, je crois, plus de 3 semaines... au tribunal correctionnel, et que s'il pense que la réhabilitation médiatique est plus forte que le jugement de la justice française, c'est quand même assez cocasse. Pour le reste, tout le monde en a pris pour son grade, même son avocat.
Même son avocat, exactement.
Les auxiliaires de justice que sont les journalistes d'AV et L'Homme, pardon, un peu de respect pour les journalistes. Et puis bon, voilà, mais on s'attendait à cette chronique d'un acharnement déclaré par lui. Après, c'est un numéro médiatique, voilà, il y a un scoop pour une télé, un client, c'est le cas de le dire, un client dans tous les sens du terme, on n'en a rien retenu, si ce n'est que oui, il a tenté d'expliquer.
On a retenu quand même des petites phrases, Jean-Christophe Ploquin.
Oui, mais que c'était une époque révolue, qu'à la limite, c'est pas si grave.
Oui, c'est ça. Tout le monde avait des comptes un peu numérotés à une époque, voilà. Qu'on fait le procès de l'ancien monde. Effectivement, comme l'a dit Yasmina, on ne va pas s'excuser toute notre vie d'être né dans des familles riches. Jean-Christophe Ploquin, vous, ça vous fait quel effet ?
Ben, on a assez régulièrement des figures de ce type. Alors, certains craquent lorsqu'ils sont confrontés justement à des procès. Là, je pense à M. Cahuzac, par exemple. Bon, ben, à un moment, il a dit oui, d'accord. Donc, on voit bien, effectivement, je suis d'accord, M. Balkany est une personnalité assez exceptionnelle dans cette capacité à maîtriser son propos et son profil. Mais je pense effectivement que par rapport... Le principal enjeu, c'est la question judiciaire et c'est le verdict qui le concerne.
Et on aura une réponse très prochainement. Restez avec nous, les informés continuent après l'info.
France Info Trafic, avec la carte carburant Carrefour pour les flottes de véhicules professionnels. Plus d'infos sur carte-carburant.carrefour.fr.
Et sur la route, des difficultés près de Toulouse, Laura Laven.
Oui, un accident est en cours au sud du périphérique toulousain, dans le sens intérieur de Toulouse Sud vers Toulouse Nord, avec en amont un bouchon de 5 km sur 3 voies. Trafic compliqué aussi sur l'autoroute A8 d'Aix-en-Provence vers l'Italie. Ça bouchonne de Valoris à Antibes et de nouveau de Saint-Laurent-du-Var à Nice. Même situation en région parisienne sur l'autoroute A13 pour rejoindre Paris. Il y a 6 km de ralentissement de Rosny-sur-Seine à Buchelay et tout au temps de Flins-sur-Seine à Aiguilly.
France Info sur tous les assistants vocaux. Demandez les infos à votre enceinte connectée.
C'est une information France Info, le chef de l'État va poursuivre
France Info, deux points, ouvrez l'info.
Le mot canicule revient pour la météo, Jean-Michel Golinski.
On en parle déjà très largement depuis quelques jours. La hausse des températures au cours de la semaine va nous donner une période caniculaire exceptionnelle par sa précocité. En milieu de semaine, la plupart des valeurs vont se situer entre 34 et 38 degrés, avec des pointes à 40 dans le sud et dans l'est. De plus, les nuits vont rester chaudes, entre 20 et 25 degrés. 5 départements sont d'ores et déjà placés en vigilance orange canicule, Paris, la Petite Couronne et la Seine-et-Marne. Remarque importante, si vous habitez près de la Manche et de l'océan, vous allez conserver des températures plus raisonnables. Demain, persistance d'un ciel bleu sur les régions de l'Est, d'un temps plus voilé mais sans autres conséquences entre le nord de la Seine, le centre et le Midi-Pyrénées. En revanche, sur la Basse-Normandie et le long de l'océan, l'ambiance sera plus grise avec possibilité d'averses et temporairement d'orages sur le quart nord-ouest.
Vous êtes sur France Info, merci d'être avec nous, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info avec vous, Solène Cressant.
Le coup d'envoi est dans moins d'une demi-heure. France-Brésil version femme pour la Coupe du Monde de foot. Et nos Françaises n'ont pas le droit à l'erreur si elles veulent rejoindre l'Allemagne, la Norvège et l'Angleterre en quart de finale. Les Anglaises qui se sont qualifiées ce soir 3-0 face au Cameroun. Guillaume Batin match au Havre ce soir. Et on imagine que les supporters sont aussi chauds que les températures de cet après-midi.
28 degrés au Havre, mais il y a un petit vent assez agréable qui fait que la soirée, si l'équipe de France évidemment gagne, bat le Brésil et se qualifie, sera d'autant plus agréable. Pour la composition qui est tombée il y a quelques minutes, pas de surprise derrière Sarah Boidi dans les buts, la gardienne de l'Olympique Lyonnais. Elles sont à 6 lyonnaises ce soir, Amel Majri en défense sur le côté gauche, à droite ce sera la Montpelliéraine Marion Torrent, défense centrale Wendy Renard et Grinchbock. Pas de surprise, milieu de terrain Elise Boussaglia et Amandine Henry, la capitaine. C'est devant qui a une nouveauté puisque Gaëtan Tinet effectivement en difficulté ces derniers matchs n'est pas titulaire ce soir. Ce sera une attaque à 4 avec Viviane Asseyi à gauche, Kadidiatou Diani à droite et deux pointes, Le Sommer et Valérie Gauvin pour un match qui va débuter maintenant dans moins de 30 minutes face au Bréville, 28 minutes précisément. Le stade sera plein à guichet fermé. Les Brésiliennes qui n'ont pas battu l'équipe de France lors de ces trois derniers matchs et qui ont perdu d'ailleurs la dernière confrontation C'était au mois de novembre face aux Françaises 3-1.
Merci beaucoup Guillaume Batin en direct du Havre et vous nous ferez vivre le match toute la soirée bien sûr sur France Info. La ministre du Travail Muriel Pénicaud demande aux entreprises d'adapter les horaires de travail de leurs salariés à la canicule. On attend jusqu'à 40 degrés la semaine prochaine, des températures qui s'annoncent plus fortes encore que celles de la canicule de 2003. Pour l'instant, 5 départements d'Île-de-France sont placés en vigilance orange canicule par Météo France. Toute la région Île-de-France a aussi activé le niveau 3 du plan canicule. Dans la crise diplomatique qui oppose depuis 3 jours États-Unis et Iran, Washington exhorte aujourd'hui tous les pays à convaincre l'Iran de désamorcer la tension dans le Golfe. L'émissaire américain pour l'Iran, Brian Hook, assure depuis Koweït que les États-Unis n'ont aucun intérêt à une confrontation militaire avec Téhéran. L'état de catastrophe naturelle reconnu pour une 30aine de communes de la Loire. Il concerne la longue période de sécheresse dans le département pendant tout le deuxième semestre l'année dernière. Les personnes sinistrées à cause de mouvements de terrain et de fissures dans les bâtiments pourront être plus facilement indemnisé. Il est 20h passé de 33 minutes sur France Info, la suite des informés avec Noé Da Silva.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
Vous regardez les informés, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h, toujours autour de la table. Céline Boisson de l'agence de com' Nude, Yasmina Jaffar, journaliste et fondatrice du site La Ruche Média, Serge Simino, journaliste au service politique de France 3 à France Télévisions, Jean-Christophe Ploquin, journaliste à La Croix, notre partenaire du dimanche soir, Canicule. Si vous n'avez pas encore entendu ce mot ce week-end, c'est que vous avez vraiment réussi à être totalement déconnecté car il commence à faire chaud. Les températures vont monter jusqu'à 40 degrés, nous dit Météo France. Alors, est-ce qu'on en fait trop, nous, les médias? A-t-on tiré les leçons de la canicule de 2003, 15 000 morts, je vous le rappelle? Eh bien non, nous dit sur France Info Pascal Chanvert, il est président de l'ADPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées.
Si nous nous trouvions dans la même situation qu'en 2003, nous n'aurions pas 15 000 morts. Mais pour autant, nous aurons quand même des milliers de morts, et c'est ça qui est parfaitement inacceptable. En fait, les pouvoirs publics nous disent, on diffuse de l'information, on prévient, et après les professionnels devront mettre les bouchées doubles. Les professionnels ne peuvent pas mettre les bouchées doubles parce qu'ils les mettent déjà au quotidien. Et c'est ça qui est très dangereux pour l'ensemble des personnes âgées de notre pays.
Jean-Christophe Ploquin, vous êtes inquiet quand vous entendez cela?
Cette interview effectivement montre bien qu'il y a un enjeu financier derrière toutes les mesures qui devraient être prises. Après, j'ai quand même le sentiment que l'épisode de cette canicule de 2003 a quand même marqué les esprits, a marqué les esprits des pouvoirs publics. Donc toutes les mairies ont déjà pris des dispositions. Non, mais toutes les mairies ont déjà pris des dispositions. Dans ma commune, je sais que les services relèvent un peu les noms des personnes âgées isolées, etc. Donc, parce que c'est quand même les personnes âgées qui sont le principal motif d'inquiétude. Et donc, j'entends cette inquiétude. On sait que les urgentistes ont été débordés et sont encore débordés, les services des urgences. Ensuite, moi, j'aurais tendance à dire aussi que c'est pas que l'État et c'est pas que les urgences qui doivent s'inquiéter des canicules, que c'est aussi notre problème à vous, à nous, à moi. Si on a des parents, c'est aussi à nous de faire
attention. Donc on en fait pas trop quand dans les médias on en parle déjà depuis vendredi pratiquement.
Non, je pense que c'est bien. Ça nous a sensibilisés, ça nous appelle à de la prévention. Encore une fois, c'est pas que l'État, c'est aussi nous personnellement.
Yasmina Jaffar.
Non, en effet, il y a eu des améliorations depuis 2003. Ça serait un faux procès que de dire l'inverse, ne serait-ce que. En tout cas, d'un point de vue de la communication, Agnès Buzyn, l'été dernier, on a eu un petit épisode caniculaire. Elle était absolument sur le pont, abrégée ses vacances. Elle n'était pas en polo filmée de loin pour nous dire que tout allait bien.
Ça, c'était le ministre de la Santé en 2003, Jean-François Mattéi, qui était en vacances dans le Var et qui disait aux 20h de TF1, je crois, que tout allait bien.
Que tout allait bien. Donc, on n'était pas habitué en 2003 à des épisodes comme cela. Tout le monde a été saisi et le public, enfin en tout cas le public, les Français n'étaient absolument pas pas certain qu'on pouvait mourir d'un épisode de chaleur. Maintenant, c'est sûr. Il y avait en 2003 à Carpentras, par exemple, 42 degrés. Et hier, sur France Info, Jean Jouzel, le climatologue, expliquait un peu de prospective et disait que d'ici 2050, nous aurions des canicules tous les 4 ans. Donc, il y a un véritable effet du réchauffement climatique. Donc, on est absolument conscient de ce qui se passe. On est renseigné et il faut répéter à longueur de temps des choses aussi simples que jeudi prochain, mercredi prochain, ne faites pas d'efforts et ne sortez pas aux heures chaudes. Ça paraît simple et un peu bizarre à dire, mais il faut le répéter.
Alors, Serge Siminaud, est-ce que vous êtes choqué quand même d'entendre Pascal Chanvert dire sur France Info « il y aura encore des morts de la canicule ».
Non, je suis pas choqué. En plus, Pascal Chanvert était déjà sur le pont en 2003 pour défendre aussi le manque de moyens dans les maisons spécialisées. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le drame de la solitude, mais il y a aussi des maisons spécialisées où des personnes âgées meurent aussi de la canicule. Donc non, je suis pas choqué. Je pense que quand vous posiez la question, est-ce qu'on en fait trop? En termes d'infoservice, non. C'est important de dire, allez voir votre famille, appelez les gens isolés, donnez-leur de l'eau, ne faites pas d'efforts. Mais politiquement, si on parle de l'état dans lequel est l'hôpital, je crois qu'on est encore dans une crise des urgences, que des internes, pour d'autres raisons, pourraient entrer en grève, et que c'est aussi là que des gens peuvent atterrir s'ils sont victimes de la canicule. Et ça, en 2003, c'est Patrick Peloux qui avait lancé un appel. Et là, la situation dans laquelle est l'hôpital, ça a l'air d'être que politique, mais c'est important, parce qu'on ne sait pas dans quel état l'hôpital, dès demain et pendant la semaine, va pouvoir faire face à cette crise. Parce que la crise, elle est là. On dit que c'est une canicule précoce, mais enfin, elle va être longue, elle va être forte, et ça, on ne sait pas. On ne connaît pas la réponse à ça. Pour le reste, on n'en fait jamais trop quand on dit les choses qu'il faut dire. Au bout d'un moment, l'infoservice, c'est bien, mais il faudrait aussi la compléter d'un certain nombre d'endroits où la crise peut être très très aiguë. Et peut-être que Monsieur Chanvert, on ne le souhaite pas, et lui non plus. Mais s'il a raison, on aura beau prévenir, on se sera trompé.
C'est une boisson.
Non, je pense qu'on n'en fait pas trop. Par contre, on ne parle pas d'un sujet qui est lié aux canicules. De toute façon, cette canicule, elle est précoce. Cette canicule, ces vagues de canicules vont être meurtrières, malheureusement, en France, en Europe, dans d'autres régions. Elles le sont déjà. Et ce serait intéressant d'en parler aussi et de prendre conscience que parce qu'elle existe en France, elle existe ailleurs, que des températures à plus de 40, ça devient malheureusement
cette
presque normal.
Cette vague d'air chaud vient du Sahara.
Voilà. Au Vietnam, l'année dernière, c'était 53. En Australie, c'était 50 degrés. D'ici 2050, effectivement, il y a
Donc quoi, c'est inévitable et vous
c'est,
dites...
bah, c'est inévitable, ouais, c'est inévitable et que et c'est meurtrier et c'est meurtrier. Donc
vous dites quoi, il faut agir sur l'écologie.
Il faut peut-être profiter de ces épisodes malheureux pour dire pourquoi ils existent. C'est la partie immergée de l'iceberg du dérèglement climatique et que, alors je ne connais pas toutes les mesures qui vont être prises, notamment à Paris ou dans les grandes villes, mais peut-être interdire la voiture quand on peut avoir le choix.
Il y a de l'action à plus long terme. Je veux dire, c'est aussi une question d'urbanisme. C'est aussi prévoir des îlots de fraîcheur. C'est aussi planter des arbres un peu partout. C'est aussi enlever du bitume et remettre de la terre battue. Enfin voilà, il y a tout un tas de mesures et un certain nombre de villes en sont conscientes.
On enlève le bitume pour planter des arbres.
Ces canicules vont devenir de façon de plus en plus récurrente. Il faut évidemment agir sur le climat, au niveau des émissions, mais on peut aussi s'organiser au niveau des villes pour rendre la ville un peu plus supportable.
Justement, pour prévenir et anticiper cela. Alors, on n'en parle pas assez de cela et de cet épisode caniculaire. On n'en fait pas trop, mais on peut même en faire plus.
Appelle à la responsabilité citoyenne, puisque voilà, on connaît tous quelqu'un qui pourrait peut-être recevoir un petit coup de fil pour prendre des nouvelles. Et la canicule de 2003, c'était en plein mois d'août, et il y a notamment eu le week-end du 15 août. Donc voilà, on n'en fait pas trop dans les médias. Il est 20h40 sur France Info. Camille Revel.
La contre-attaque de Jean-Luc Mélenchon après le revers des Insoumis aux Européennes et les critiques en interne. Il réaffirme son rôle de chef de file du mouvement et l'assure, aucune autoflagellation de convenance de la gauche mondaine ne viendra abattre la France insoumise. Il va faire chaud, très chaud, une vague de chaleur sans précédent pour un mois de juin s'abat sur la France. Dès demain, Paris, sa petite couronne et la Seine-et-Marne sont déjà en vigilance orange canicule. La ministre du Travail demande ce soir aux entreprises d'adapter les horaires de travail des salariés Pour les élèves qui passent des épreuves du brevet ou du bac, vous aurez le droit de sortir vous désaltérer s'il n'y a pas d'eau dans la salle. L'opposition turque prend les rênes d'Istanbul. Ekrem İmamoğlu donné largement vainqueur aux dépens du candidat du président Recep Tayyip Erdogan qui le félicite. Donald Trump, lui, l'assure, si on lance une procédure de destitution à son encontre, il sera réélu plus facilement en 2020. Mais, dit le président des États-Unis, je crois que je n'aimerais pas ça, ce serait une injustice parce que je n'ai rien fait de mal. Angleterre, Norvège, voilà l'affiche dans les quarts de finale du mondial féminin de football. Les Françaises, elles jouent pour une place en quart de finale ce soir à 21h. Elles affrontent le Brésil. Le match se joue au Havre.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
Merci d'être avec nous, les informés. Autour de la table, toujours Céline Boisson, Yasmina Jaffar, Serge Simino, Jean-Christophe Ploquin. La PMA, la procréation médicalement assistée, on en sait un petit peu plus sur le projet de loi du gouvernement. La PMA sera ouverte à toutes les femmes, célibataires, lesbiennes. Le projet irrite déjà, comme Jean-Louis Bourlange, le député MoDem des Hauts-de-Seine, était l'invité de France Inter, France Info ce midi.
On nous a dit qu'on faisait le pacte pour ne pas avoir le mariage pour tous. On nous a dit qu'on faisait le mariage pour tous pour ne pas avoir la PMA. On nous dit qu'on fait la PMA pour ne pas avoir la GPA. La sexuation, si je puis dire, de la famille est un élément absolument central. Ça veut dire qu'il y a un homme et une femme derrière. Je pense que c'est important, même si effectivement, il peut y avoir des couples homosexuels et des célibataires qui élèvent parfaitement les enfants. Mais
Jean-Louis Bourlange, donc, ce midi avec Ali Badou sur France Inter. Et sur France Info, vous êtes choquée, Yasmina Jaffar ?
Dire qu'il faut vivre avec son temps, ça peut paraître être un slogan aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une société qui revendique d'aller de l'avant et il y a des valeurs fondamentales à ne pas trop bousculer. Il faut trouver l'équilibre entre ces deux axes-là et avancer parce qu'on n'est pas le seul pays à se poser la question et à voter de façon favorable pour cette idée. Le travail qu'a fait François Hollande il y a quelques années a permis une forme d'évolution des mentalités. Donc aujourd'hui, ça paraît un peu logique dès l'instant où c'est encadré. Et je crois qu'Agnès Buzyn s'y encadre, s'y attelle pour que justement ça parte pas dans des choses un peu inattendues.
Ouais, on va revenir sur le fond. Jean-Christophe Ploquin, sur la forme, est-ce que le gouvernement Macron va faire mieux que le gouvernement de François Hollande en 2013?
Alors je pense qu'il l'espère. Il espère faire mieux. Enfin, il espère
que et vous, les journalistes à la Croix,
que les manifestations, les manifestations n'auront pas la même ampleur. Non, mais c'est vrai. La Croix, c'est évidemment un sujet qu'on suit très, très attentivement. Et d'ailleurs, dans le journal de demain, l'a dit, il y a deux pages d'interviews croisées entre un pro PMA et quelqu'un qui est réservé par rapport à la PMA.
Vous pensez que la mobilisation va prendre?
Écoutez, je pense que ça va être différent de la manif pour tous. La manif pour tous a été un moment qui a surpris y compris les organisateurs de ces manifestations. Je pense que aujourd'hui, il s'est passé du temps, il s'est passé aussi du temps politique, c'est-à-dire qu'il y a eu des échéances électorales, il y a eu des échecs aussi de candidats qui se revendiquaient de façon rapprochée ou moins rapprochée de ces mouvements politiques et de ces courants de société aussi. Donc il me semble que ça va être moins virulent et que effectivement le souci, c'est vraiment de permettre un débat de qualité et de permettre effectivement de faire valoir des arguments qui s'opposent effectivement dans une vision un petit peu anthropologique de ce qu'est la famille, mais que ce débat ne tombe pas dans la virulence et l'extrémisme.
Serge Simino, est-ce que c'est le bon tempo pour le gouvernement? Il va prendre de court les partis qui n'ont peut-être pas justement de position encore bien claire, bien définie, notamment chez les Républicains, après la défaite de François-Xavier Bellamy aux Européennes.
Le bon tempo, c'est une promesse de campagne, donc ça faisait un petit bout de temps qu'on se demandait si l'agenda parlementaire allait laisser une place à cette loi. Donc j'allais dire, pour le candidat Macron, devenu président, il était temps. Après, on le sait, c'est un fin politicien, il veut supprimer l'ensemble des autres partis politiques. Là, il va pouvoir une fois de plus peut-être diviser ce qu'il reste de la droite. Édouard Philippe parlait de la droite Trocadéro, c'est effectivement M. Fillon, M. Bellamy, c'est la droite sens commun qui est en mauvais état, donc peut-être que ce ne sera pas pas de la même ampleur. En tout cas, ils n'ont pas les troupes pour l'instant pour le faire. Alors peut-être que ce sera d'autres qui se plieront à lutter contre cette loi, mais il était temps pour le candidat Macron de ne plus tergiverser, parce qu'à un moment donné, on pensait que c'était sa conviction, mais que ça traînait. Alors il veut un débat apaisé. Ces débats-là ne le seront jamais, mais ils doivent avoir lieu. Et cette loi, donc on verra ce que dira le Conseil d'État sur le fond, mais cette loi va donner sans doute des débats assez intéressants sur la famille, sur ce que pensent encore les anti-mariages pour tous qui doivent être encore là.
Est-ce qu'il y aura vraiment débat ?
Je pensais que le sonore de M. Bourlange datait de 2013. En fait, non, il est d'aujourd'hui, vous voyez. Donc tout le monde n'a pas encore évolué là-dessus. Il faut que ce débat ait lieu. La majorité est largement en faveur d'Emmanuel Macron. Donc on verra où seront les lignes de fracture. Mais à droite, il est évident que combien de divisions... Monsieur Ploquin en parlait, je crois que là-dessus, il a déjà eu la peau des Républicains à ce niveau-là.
Céline Boisson, vous pensez-vous qu'il débat, il y aura débat et un débat apaisé ?
Oui, il y aura certainement débat apaisé, je l'espère. Hein, ce serait bien pour notre société, puisque effectivement, il faut aller de l'avant. Et
parce que vous pensez que c'est ringard d'être anti-PMA aujourd'hui et que du coup, ça ne va pas prendre, même à droite ?
C'est pas une question de ringard ou pas être ringard. C'est que la PMA existe dans des pays limitrophes et ne serait-ce que pour une égalité entre les différents, enfin les couples hétérosexuels.
On avait aussi le droit de se marier dans des pays limitrophes et pourtant, il y a eu vif débat en France.
Pour éviter justement que ces femmes aillent à l'étranger avec des coûts parfois très élevés pour avoir le droit d'avoir un enfant, cette notion d'égalité me semble très importante et c'est pas une question d'être ringard ou pas, ça va dans le sens d'une société progressiste et qui ça va dans le sens de l'histoire tout simplement.
Mais donc c'est normal qu'il y ait en même temps débat. Enfin, je pense et si le débat est animé, tant mieux.
Il faut qu'il y ait débat.
Parce qu'effectivement, ce sont vraiment des évolutions qui sont profondes.
Mais on ne veut pas revoir ce qu'il y avait eu à l'Assemblée nationale.
Monsieur Bourlange n'est pas, c'est quelqu'un de tout à fait au fait des évolutions de la société. Donc s'il affirme cette position, c'est pas qu'il est ringard. C'est juste qu'il défend une position en cohérence avec sa vision de ce qu'est aussi.
Je ne disais pas qu'il est ringard. Je posais la question de savoir si aujourd'hui à droite, c'était ringard d'être anti-PMA, notamment les mauvais scores aux européennes.
PMA, c'est ça qui date de 2013.
Il faut bien voir qu'effectivement. Ce débat remet questionne en tout cas et ces questions
le font
avancer les questions de effectivement la présence d'un père dans une famille où il n'y a que des femmes, etc. Donc quel est le rôle, est-ce qu'il y a un rôle spécifique à un père, comment est-ce qu'on distingue la paternité
dans
d'autres
le projet
valeurs
qu'on a pu lire dans le journal du dimanche, il n'y a pas de décision sur la filiation avec deux mères, une reconnaissance anticipée peut-être si j'ai
ça,
bien
c'est un peu ce qui c'est un peu ce qui est prévu avec deux possibilités, soit que ce soit étendu à tous les couples qui recourent à la PMA, donc qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, les couples, ou bien alors est-ce que ce serait uniquement pour les femmes qui recourraient à la PMA. Mais sinon, effectivement, le fait qu'on aille vers une déclaration devant le notaire d'abord, et ensuite une reconnaissance devant l'officier d'état civil après la naissance, ça paraît être la direction prise par le gouvernement.
C'est Emmanuel Macron, effectivement.
L'idée de lever le voile sur la filiation est intéressante, ne serait-ce que pour l'idée du secret de famille.
Avoir droit à l'accès aux origines.
Exactement,
à 18
ans. Savoir d'où l'on vient, pour la construction, c'est intéressant. Et on connaît tous le fameux film et livre de François Grimbert sur le secret. On sait ce que ça fait dans les vies des gens. Donc, ça fait aussi partie du progrès que de mettre sur la table non seulement cette idée de la PMA, du voile de la filiation, mais d'en l'encadrer, comme je disais tout à l'heure, de façon correcte pour que les enfants qui viennent de ces naissances-là ne se retrouvent pas complètement perdus face à leurs origines.
Des
c'est
infos sur le donneur, Céline Boisson.
Oui, effectivement, je pense que c'est bien pour avoir accès à l'information, donner le droit aussi à ces enfants de connaître leurs origines, puisque effectivement, le poids du secret peut être très très lourd dans la construction d'un enfant et d'un adulte.
Il est 20h50, vous écoutez Les Informés. Le rappel de l'info, c'est avec Camille Revel.
Jusqu'à 40 degrés le jour, 25 degrés la nuit, la France face à la canicule dès demain. Paris, sa petite couronne et la Seine-et-Marne sont déjà en vigilance orange. Tous les préfets d'Île-de-France activent le niveau 3 du plan canicule, il y en a 4 en tout. Une plateforme téléphonique est mise en place dès demain, 9h, son numéro le 0800 06 66 66, 0800 06 66 66. La société est prête, Agnès Buzyn défend dans le JDD sa loi sur la PMA, la procréation médicalement assistée pour toute. La ministre de la Santé assure qu'elle sera remboursée jusqu'à l'âge de 43 ans. Elle veut aussi que les enfants conçus grâce à un donneur puissent apprendre son identité lorsqu'ils deviennent majeurs. De plus en plus de missions, de moins en moins de moyens. Le service public de secours est malade en France et la population a le droit de savoir. La colère sur France Info du président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers. 7 syndicats appellent à la grève cet été. Dès mercredi, les pompiers continueront bien sûr d'assurer leur mission. Des dizaines de milliers de Tchèques, 250 000 selon les organisateurs dans les rues de Prague aujourd'hui, pour réclamer le départ du Premier ministre. Andrei Babis est soupçonné de fraude aux subventions européennes. Les corps de 7 alpinistes retrouvés dans l'Himalaya, retrouvés par des secouristes spécialisés, partis depuis près d'un mois à leur recherche dans le deuxième plus haut massif de l'Inde, la Nanda Devi. Et de 4, Clarisse Agbenienou, sacrée championne d'Europe de judo pour la 4e fois, catégorie moins de 63 kilos. Elle est numéro 1 mondial, triple championne du monde, vice-championne olympique, et tout ça à l'âge de 26 ans.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
C'est l'heure des coups de cœur de nos informés ce soir, du sport, de la musique et une série. On commence donc avec vous, Yasmina Jaffar, ça vous tient à cœur. Oui. C'est une série qui passe sur Arte.
Exactement. Mon sourire en dit long tellement je trouve cette série magnifique et je remercie Jean-Xavier de Lestrade, réalisateur oscarisé en 2002 pour un coupable idéal. C'est d'une qualité redoutable. C'est sur Arte. Les deux derniers épisodes sont jeudi prochain, à ne pas rater.
Ça s'appelle Jeu d'influence.
Jeu d'influence avec le fabuleux Laurent Stocker et Alice Poisson. Et on est dans le monde des lobbies, on est dans le monde de l'agriculture, on est dans le monde politique.
Série politique donc.
C'est une série politique très bien ciselée qui a été écrite à la manière d'un documentaire. Ils ont rencontré Jean-Xavier et son équipe des politiques, des communicants et des agriculteurs, et ils ont ensuite acheminé ça comme une écriture scénaristique pour que ça ressemble à une série, mais très clairement on côtoie tous autour de la table le milieu politique, on a vraiment le sentiment d'y être, tout est extrêmement bien réalisé, le discours est là, et la question c'est lobbyiste et pesticide, lequel est le plus toxique? Ben vous aurez la réponse en regardant la série, et ne la ratez pas, c'est super.
Qui l'a vu?
Non, et toute ressemblance avec des faits ayant existé serait purement volontaire.
Voilà, c'est ça. Alors, si vous ne l'avez pas vu, dernière information, jusqu'au 27 juillet sur Arte, l'intégrale. Voilà.
C'est jusqu'au 27 juillet. Ah bon, on a
c'est
le temps.
Noté. En replay.
On a
voilà,
le temps, on a le temps.
Merci.
Effectivement, pendant cette semaine, on va s'enfermer, on va descendre à la cave.
Dans la cave. D'ailleurs, voilà. Il fait chaud cette semaine. Regardez Jeux d'influence.
Céline Boisson, de la musique.
Alors moi, je voulais vous parler de Madison Cunningham, que j'ai vu en concert vendredi dernier au Trianon, donc
à Paris, vous ne pourrez
pas retourner la voir puisqu'elle est californienne, elle a 22 ans et elle s'est produite, en fait, c'est la guitariste de Andrew Bird, qui fait de magnifiques albums et elle joue aussi en solo, elle faisait sa première partie, elle fait de la guitare électrique et faire de la guitare électrique quand on est une fille de 22 ans, c'est assez exceptionnel, elle chante merveilleusement bien. Elle est autrice, compositrice et interprète et je vous la conseille vivement. Elle a un site madisoncunningham.com et vous pouvez du coup écouter ses compositions sur les plateformes de diffusion musicale. Vraiment, elle a une voix magnifique et elle est très accessible puisque je suis allée la féliciter juste après tellement j'avais eu un coup de cœur.
Alors, nous n'avons pas eu le temps de l'écouter cet après-midi au bureau parce qu'entre Jean-Luc Mélenchon à fond et ensuite Patrick Balkany, on n'a pas eu la place.
Écoutez, oui. Juste avant de vous endormir, vous verrez, c'est magnifique.
Serge Chimino, vous, c'est du football.
Oui, à quelques minutes de France-Brésil, je vais vous parler d'une brésilienne, une légende qui sera sur le terrain.
Pas d'une française.
Mais non, parce que la légende, elle est brésilienne.
Ah bon.
À l'heure où on parle d'égalité femmes-hommes, où certains se posent des questions sur la qualité de jeu des femmes par rapport aux hommes, eh bien, elle a mis tout le monde d'accord, parce que la semaine dernière...
Dites son nom, alors.
Pardon, Marta Vieira da Silva, donc son nom est
très joli,
Marta, 33 ans, et qui a mis tous les hommes d'accord, puisqu'elle a marqué 17 buts sur l'ensemble de ses Coupes du Monde. Elle devance donc un Allemand, Miroslav Klose. Elle devance aussi Ronaldo, le Brésilien, et aussi Gerd Müller. Donc voilà, ceux qui se posent la question de savoir si les hommes et les femmes jouent au même sport. En tout cas là, elle les a mis tous d'accord et elle peut encore en marquer. Alors, pas contre la France, ou en tout cas pas assez pour les battre, bien évidemment. Mais je voulais dire quand même à tous ceux qui vont dire « allez les Bleus » que cette Brésilienne, c'est aussi quelqu'un qui défend l'égalité sociale et sur le terrain. Et au Brésil, c'est pas un combat facile.
Jean-Christophe Ploquin, festival.
Festival, parce que ça y est, c'est l'été.
Oui.
Et donc c'est la période des festivals. Il y en a évidemment un peu partout toute l'année, mais on sait que pendant l'été, il y a des festivals un peu partout en France. Ça fait vraiment partie de la culture française, de toutes les musiques, de tous les genres. Et alors mon coup de cœur, effectivement, c'est le festival d'Auvers-sur-Oise. Donc c'est au nord de Paris, c'est tout près de Cergy-Pontoise, voilà, c'est dans le Val-d'Oise. Et c'est un festival qui existe depuis 39 ans. Mmh. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est cet ancrage finalement dans un territoire qui est à la fois rural et urbain. On n'est pas très loin de Roissy, on n'est pas très loin de Cergy, on n'est pas très loin de Paris, finalement à moins d'une heure. Et la programmation combine vraiment des jeunes talents et des grandes pointures. Et j'ai eu la chance d'entendre, alors moi c'était jeudi soir, une diva qui était américaine également, qui s'appelle Joyce DiDonato, qui est une mezzo-soprane, mais qui a un talent aussi de finalement d'actrice sur scène. Et donc ça a été un véritable ravissement. Et ce sont vraiment des artistes qui vous font adhérer à leur art de façon extrêmement forte. Donc, le festival d'Auvers-sur-Oise, ça dure jusqu'au 4 juillet. Il y a encore de très nombreux concerts.
J'ai vu sur l'affiche 7 juillet.
Moi, j'ai 4 juillet là, mais alors...
Très bien.
Alors, peut-être le 6 alors.
Je ne sais pas, ce n'est pas l'image que voilà, c'est ça, hein, voyez.
Alors ça, ah c'est, oui, parce non, que c'est pas voilà, la bonne affiche. C'était il y a deux
moi.
Ans ça.
Voilà. Autant pour moi.
Mais c'est pas grave, vous avez eu raison.
Pardon.
Et Auvers-sur-Oise, c'est très sympa.
Vous avez la parole, gardez-la. Jean-Christophe Ploquin, la une de la Croix demain.
La une de la Croix, on est voyager en avion du plaisir au doute. Et donc, évidemment, avec cet enjeu du climat, des personnes voilà, qui s'interrogent de plus en plus, est-ce que je vais prendre l'avion pour partir en vacances?
Merci aux informés de ce soir. Céline Boisson de l'agence de com Nudes, Yasmina Jaffar, journaliste et fondatrice du site La Ruche Média, Serge Simino, journaliste politique au service politique de France 3 et de France Télévisions, Jean-Christophe Ploquin, journaliste à La Croix, notre partenaire ce soir. Merci à Maureen Sugnard qui m'a aidé à préparer les informés ce soir avec Sandrine Duvoux que l'on embrasse et qui l'on souhaite un très bon anniversaire demain matin. J'allais oublier le nom de l'invité de France Info demain matin. Eh bien, ce sera la surprise. Manon Aubry. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très bien entouré dans cette émission et on me l'a dit dans l'oreillette. Très bonne soirée à toutes et à tous sur France Info.